MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Imo.
Eh bien voilà, nous reprenons le cours de notre première journée sur l'édition 2025 du MIPIM ici au Palais des Festivals de Cannes. On vous invite bien sûr à nous rejoindre. Nous sommes installés avec une vue magnifique sur la baie de Cannes. Nous sommes au Salon des Ambassadeurs. Voilà, on est ravis d'être avec vous. Il est 9h33 et nous on est toujours en direct avec Radio Imo. Je rappelle donc le programme de la journée. Nous allons recevoir pour le grand entretien à 11h45 Valérie Létard, ministre du Logement. On l'attend en fin de matinée et nous avons bien sûr les grands professionnels et les acteurs de premier plan qui vont circuler sur le plateau toute cette matinée. Voilà, il est 9h33, on va recevoir le président de CBRE France. Bonjour Fabrice Allouche.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Fabrice ?
Eh ben, ça va très bien, je suis toujours ravi de vous retrouver. On a longuement échangé juste avant cette émission et c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver.
Alors ce qui est bien avec vous Fabrice, c'est que d'abord vous avez une voix qui est faite pour la radio, ça je vous l'ai dit 10 fois, parce que ça fait 9 ans qu'on se voit à peu près une à deux fois par an, c'est comme vous voyez, on est rendez-vous à épisode. Justement, je vous ai trouvé très en forme, voilà, flamboyant. C'est quoi le moral de Fabrice Allouche avec cette ouverture du MIPIM ici en 2025?
Oui, alors il y a deux questions, il y a mon physique, mon mental, etc. Mais ça c'est naturel, c'est une passion que j'ai depuis des années, donc ça ne changera pas. Et puis jusqu'au bout, on en parlait également, donc je ne lâcherai pas cette passion immobilière qui est la mienne, et que ce qu'on soit à MIPIM ou à Paris, c'est la même ambiance, la même volonté d'avancer. En revanche, pour répondre à la deuxième question, ou l'observation, qui est très importante, puisque je pense qu'on est en train de vivre non pas une révolution, mais quelque chose d'extrêmement important dans l'immobilier. Et je cherchais comment introduire cette conversation il y a quelques instants, et je me suis dit, ici, il y a quelque chose qu'on pourrait identifier, c'est assez osé comme comparaison, mais c'est un peu comme une révolution copernicienne. C'est-à-dire qu'on avait ce milieu géocentrique, bien basé, bien cadré, avec nos habitudes, et bien tout d'un coup, ça devient héliocentrique, et tout d'un coup, tout change. C'est-à-dire que l'univers, nous ne sommes pas le centre, mais nous sommes une partie de l'univers, et dans cet univers, ça devient un peu brownien, et il va falloir retrouver des positions. Et je pense que beaucoup de choses sont en train de changer, et je pense que si on revenait dans 5 ou 10 ans, ce que nous disons maintenant va se révéler et notre industrie immobilière va largement changer.
Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que ça veut dire que ça nous amène à plus d'humilité et on a cru peut-être à tort que la prospérité était infinie dans nos classes d'actifs? Non mais c'est intéressant parce que
part sur de la philosophie tous les deux, l'humilité, oui, c'est un comportement personnel ça. Mais
moi quand je vous entends, je me dis, ce que vous dites, Fabrice, c'est quoi? C'est tout bouleversement est propice au changement, et que le changement, c'est un peu l'ADN ou le moteur de la prospérité.
Alors, le mot changement, c'est ce mot-là sur lequel je vais réagir, parce que le changement, c'est le moment important, puisque tant qu'on n'a pas analysé le changement et les conséquences du changement, on ne peut pas bâtir. Et aujourd'hui, on est dans cette phase de compréhension des nouveaux marchés, et donc il faut qu'on s'interroge là où nous allons. Donc on peut segmenter complètement les réponses, mais aujourd'hui, faisons quelque chose d'extrêmement simple. Peu de gens, à mon avis, ont lu le rapport Draghi, ou en tout cas le résumé du rapport Draghi, qui est extrêmement intéressant. Donc je l'ai regardé, je l'ai visité. Bon, à la fin, on peut dire qu'il n'y a rien de fondamental, mais il y a beaucoup de volonté de faire bouger les choses. Mais si on l'applique à l'immobilier, aujourd'hui, on est dans la même situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des marchés immobiliers qui, aujourd'hui, year to year, sont en train de, non pas s'effondrer, mais sont en réduction majeure. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez simplement le take-up bureau Île-de-France, c'est moins 25, moins 30%, on est à 1 750 000 m². C'est une nouvelle révolution, c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle référence. Et moi, je fais partie des gens qui considèrent que nous n'aurons plus jamais 300, 400 000 ou 500 000 m² de bureaux chaque année qui viendront de se placer. Donc, il nous faut vivre à ce nouveau paradigme qui est entre un 8, un 9, un 7. Et je rajoute un élément, mais on en a parlé en introduction tout à l'heure, c'est tout ce qui est data center, intelligence artificielle. Je pense que la prochaine révolution qui va impacter le bureau est justement l'intelligence artificielle, avec une nouvelle réduction des emplois de back-office qui vont être les premières victimes de ça. Donc ça va nous engager dans une nouvelle projection, dans une nouvelle vision, et il faut prendre en compte ces nouveaux paramètres pour s'inscrire dans les futurs marchés.
Alors justement, faisons un point global avec une petite rétrospective, si vous voulez bien. Ça fait pratiquement 3 années que le marché de l'immobilier est, on peut le dire, sévèrement chahuté. Alors, toutes classes d'actifs confondues. Le pire du pire étant la construction de logements neufs, où le marché s'est carrément rétréci par deux. Mais ça, vous le savez déjà, le marché de la location privée en logement est une catastrophe, puisque c'est 49% d'annonces en moins, à périmètre constant, d'une année sur l'autre. Sur le bureau, on va dire que le marasme est assez hétéroclite, puisqu'on a des quartiers comme les QCA dans les grandes agglomérations qui se portent plutôt bien. On a des vacances locatives qui sont assez faramineuses sur les contours des grandes des régions, des grandes agglomérations. Mais là, de façon iconique, je fais allusion notamment à la transformation du quartier de la Défense, qui est un vrai sujet en soi. Je voudrais qu'on mette en perspective, c'est pas une question, hein, tout ça, on est plutôt dans la réflexion, on a l'habitude, vous et moi, c'est un inversement des taux directeurs de la BCE qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est plutôt sur un plateau avec quand même une réduction de plus de 250 points de base quand même sur les taux d'intérêt, c'est pas neutre. On voit avec la direction de l'aménagement du territoire et de la nouvelle ministre du Logement et de la rénovation urbaine bouger un peu les lignes. Voilà, plutôt dans la réflexion, quelle analyse économique, macroéconomique et géopolitique on peut faire lorsqu'on s'appelle Fabrice Allouche et qu'on dirige aujourd'hui l'un des premiers acteurs immobiliers français.
D'abord, avec tous ces sujets qui viennent d'être exprimés, je pense que vous allez pouvoir annuler tous les rendez-vous de la matinée parce que je vais rester avec vous pour les balayer un à un. Et je trouve ça absolument passionnant parce que chaque sujet en soi doit être creusé, analysé pour avoir une bonne compréhension. En revanche, là, je vais me positionner sur le résidentiel parce que ça, c'est un vrai sujet. Je sais que Valérie Létard sera présente tout à l'heure, la ministre du Logement. Mais il faut être clair. Moi, je vais vous donner deux éléments. C'est l'IFPIM. J'ai participé à un atelier de l'IFPIM. Et au cours de cet atelier, je crois que là, c'est un représentant de la compagnie du BTP a donné deux chiffres. Bah, le premier chiffre, c'était on a besoin de 450 000 logements par an. On n'en produira pas plus de 250 000 sur les deux derniers exercices. On n'en a pas produit plus de 250 000. Donc la crise, elle est devant nous. Le deuxième sujet, le deuxième élément, c'était de dire, chaque année, en moyenne, depuis 10 ans, on produisait 150 000 logements individuels, style pavillon, etc., en France. On en a produit 50 000 en 2023.
Ah oui,
donc ça veut dire qu'il y a un effondrement total. Maintenant, si je bascule sur bureau et la transformation, tous nos ministres, quels qu'ils soient, et quel que soit leur statut et leurs prérogatives, se sont emparés du sujet en disant on transforme les bureaux, on va trouver la solution. Oui, c'est une solution, mais ce n'est pas la solution au logement. C'est une solution, mais pas la solution. Et donc, il faut rentrer dans cette logique-là, parce que ce que je prétends, c'est qu'à partir du moment, et en plus on a des élections municipales et présidentielles qui arrivent dans les deux ou trois ans à partir d'aujourd'hui, ça va donc bloquer l'ensemble du marché. Et donc, de ma vision, changer... des bureaux en logement, considérant que tous les feux sont au vert, on a l'actif, ça fonctionne, on a l'equity pour le faire, etc. Le temps de faire une modif de PLU, d'avoir passer les élections et d'avoir deux ans de chantier, vous n'avez pas une production importante ou conséquente avant 3 ou 5 ans. Ça veut dire qu'on va avoir un trou d'air énorme sur la production de logements en France.
Donc non seulement on vient de se taper 3 années, enfin je dis ça comme ça, qui sont dramatiques, après quand même une période où on rasait gratis pendant une bonne dizaine d'années. Et là, ce que vous nous dites, c'est que les 5 prochaines années vont être pires.
Ça va être très, très, très dur, oui. Je considère qu'effectivement, ça va être extrêmement compliqué.
En fait, c'est quoi ? C'est réparer la crise actuelle.
On prend maintenant des décisions qui sont mises en œuvre dans les 2-3 prochaines années qu'on aurait dû prendre il y a 5 ou 10 ans. Donc en fait, on a ce décalage temps. D'ailleurs, quelque part, si on fait quelque chose de beaucoup plus large, c'est la politique française sur tous les sujets. On parle beaucoup, on est très, très démocratique, on a toutes les oppositions, on échange, mais on ne prend pas les bonnes décisions au bon moment. Et quand enfin il faut les prendre, malheureusement, on est dos au mur, et c'est l'urgence qui commande. Et ça, c'est une vraie problématique. Et ça vaut pour le logement en France. Valérie Létard le disait à son intervention à l'Interallié il y a quelques mois, quand elle a pris ses fonctions. Là, elle était sous le Premier ministre Barnier. Et en fait, elle expliquait que 60-65% des Français sont éligibles au logement social. Il faut juste avoir ça en tête.
Absolument, ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation extrêmement critique.
Oui, oui. Et d'ailleurs, ils sont logés, pour la plupart, dans le parc locatif privé.
Alors ça, c'est un autre sujet.
Qui, lui, subit une inflation normative et fiscale absolument proche du matraquage.
Alors moi, je fais partie de ces gens qui soutiennent, et j'ai entendu Valérie Létard et le député d'Aubier reprendre le sujet, parce qu'il y a la PPL qui devrait être proposée, mais malheureusement, ça sera encore pour l'année prochaine, donc on va encore perdre une année. C'est effectivement le statut de bailleur privé qui est un point essentiel.
Si
on n'entre pas dans ce sujet de statut bailleur privé, et si on ne sort pas de l'idéologie de dogmatisme politique, on va rester bloqué. Et donc le parc de logements privés va se réduire, les entretiens d'appartements ne seront pas faits, donc on va avoir une décrépitude progressive de toute la qualité des logements.
C'est déjà le cas.
Et donc, on en prend le chemin.
Mais c'est déjà le cas. Regardez, on a déjà 577 000 unités retirées du marché en étiquette G, impropres à la location. Quid, effectivement, de la contradiction entre la volonté de loger les Français et un calendrier de la rénovation énergétique qui est contraint. Parce qu'apparemment, le gouvernement, et c'est une question que je vais poser aujourd'hui d'ailleurs, n'est pas disposé à revenir sur le calendrier.
Alors, justement, moi je fais partie de ces gens qui devraient prendre en compte cette situation. Pourquoi ? C'est que la plupart des gens qui sont en étiquette GE, de mémoire, en fait, ils vont aller au marché, ils vont perdre du capital en valeur. Et qui va venir derrière pour acheter ? Marchands de biens, les opérateurs, les développeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça va pas profiter.
Pardonnez-moi, mon cher Fabrice, mais il faut entre 20 et 40 000 euros pour rénover un appartement. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un T2 ou ne serait-ce qu'un studio dans lequel la rénovation ne peut se faire que par l'extérieur, par exemple, et qu'à Paris, on n'a pas la possibilité de le...
Alors là, c'est des points techniques, parce que moi, je restais plutôt sur des points généraux.
Oui, mais... ce que je veux dire, c'est que dans la praticité, si vous voulez, peut-être qu'un moratoire, d'ailleurs, je vous rappelle que le député Marchib et Inaki avaient émis l'idée de pouvoir aménager le retrait des étiquettes G pour permettre effectivement, on va dire, un coussin, une espèce d'amortisseur qui permettrait de le faire. Parce que je rappelle qu'en 2028, c'est les étiquettes F qui vont sortir du marché.
D'accord, mais là on va parler sur un autre sujet, c'est la prime rénov. Peut-être par la prime rénovation qu'on peut aider ces particuliers à réaménager leur logement. Mais de toute façon, à partir du moment où en France, vous êtes considéré détenteur d'un patrimoine, quelle que soit sa qualité, comme quelqu'un qui profite d'un système, on ne peut pas s'en sortir. Il faut élever le débat.
Alors, bien évidemment. Alors, je vais faire une transition justement sur le marché du bureau. Alors, le marché du bureau, c'est vraiment très, 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 très contrasté. Là, bien malin celui qui fera une prophétie sur le bureau. On a des quartiers largement sinistrés. Ce qui est absolument incroyable, c'est de voir à quel point la Défense devient iconique dans son bouleversement et dans sa transformation. Donc, moi, j'ai envie d'abord de vous poser une question. C'est comment se porte le groupe CBRE France en France ? Et la deuxième, c'est ce qu'on dit actuellement sur le quartier de la Défense, est-ce que vous y croyez ? Et je vais même y ajouter, on est en train même de penser, avec des nouveaux projets, mais vous y avez assisté, donc on va pouvoir commenter, sur un quartier de mixité d'usage et de fonctionnement qui réintroduirait, par exemple, sur l'esplanade de la Défense, je ne sais pas si vous avez vu les plans de la nature, du logement, du food un peu plus développé, des loisirs, de la culture. Question, est-ce que vous, pour vous, ça vous paraît une nécessaire transformation de ce quartier qui est iconique, qui, je le rappelle, est le premier quartier d'affaires en Europe ?
Alors, avant de répondre sur la Défense, je vais plutôt faire un scope assez général de ce qu'est le bureau en Ile-de-France. Le bureau en Ile-de-France, aujourd'hui, vous avez deux ou trois marchés, hein, même trois marchés, on va dire. Il y a le centre, la centralité, ce qui est demandé par tout le monde, même, c'est parce que d'ailleurs, c'est ce qui fait monter les loyers, peut-être qu'on est arrivé à un plafond. Mais quoi qu'il en soit, la centralité est la première demande. Ensuite, on a des formes de marchés qui sont connectés et qui sont des seconds marchés, mais qui fonctionnent également.
Excusez-moi, Fabrice, juste qu'on comprenne bien, quand vous dites centralité, c'est laquelle ?
Bah, on est sur Paris, les secteurs de référence de bureaux classiques.
Ouais, c'est 4 Paris.
Non, c'est Paris complètement. C'est tout Paris. Non, c'est tout Paris, la première couronne.
Pour vous, le quartier d'affaires, c'est Paris.
Bah, c'est une question de dénomination après. Si on parle de quartier d'affaires, c'est le QCA, oui. Mais en réalité, là où le business se développe aujourd'hui, et on l'a vu à travers nos activités chez CBRE en 23 et 24, ça se passe essentiellement dans Paris, dans la première couronne ouest. Donc voilà, c'est là qu'on travaille essentiellement. Mais ce qui est en train de se passer de manière extrêmement claire, c'est qu'aujourd'hui, on a une dichotomie très marquée entre les secteurs actifs et les secteurs non actifs. Alors les secteurs non actifs, plus vous éloignez du centre, et ben tous ces mètres carrés-là sont ce que moi j'ai qualifié, d'ailleurs je me souviens dans une conférence à laquelle j'ai participé, j'ai appelé ça de déshérence future immobilière. Ben, cette déshérence, ça veut tout simplement dire que ces immeubles de bureaux ne retrouveront plus jamais, je répète, plus jamais d'utilisateurs en bureau. Parce que c'est inadapté, parce qu'ils ne sont pas rénovés, ils ont 20 à 30 ans d'âge, ils sont dans des localisations qui ne sont plus demandées. Et toute cette réduction dont j'expliquais tout à l'heure en introduction, le fait qu'il y ait moins de demandes de mètres carrés de bureaux, puisqu'on est en centralité, on est en restriction. Là, je vous donne un exemple, on a une entreprise pétrochimique qui est dans l'ouest parisien, ils ont 40 000 mètres carrés de bureaux, ils viennent de prendre par notre intermédiaire 10 000 mètres carrés de bureaux à la Défense. Vous voyez la contraction de l'activité. Mais ça naît de quoi ? Un, une volonté majeure de faire des économies, ça c'est assez basique. Deuxièmement, c'est tout simplement qu'on a cherché l'intensité d'usage des bâtiments, ce que nous faisons nous-mêmes chez CBRE, c'est-à-dire que vous avez un immeuble, vous cherchez à l'exploiter au maximum, donc réduction de la demande et puis vous temporisez. Le troisième sujet, bien évidemment, c'est le télétravail. Le télétravail est devenu une institution maintenant, ça fonctionne, on ne reviendra pas dessus. Donc c'est entre 1 et 3 jours de travail selon les entreprises, ça fait une réduction de consommation de mètres carrés de bureau. Et moi j'y rajoute l'élément d'intelligence artificielle. Ah, j'oublie aussi le coworking, qui est aussi un élément important dans la réflexion des entreprises.
Et il marche très fort.
Je prends ce dont j'ai besoin pour le moment dont j'ai besoin. J'aime bien cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Christophe Courtin. Et le dernier élément, c'est l'intelligence artificielle qui n'est pas encore vraiment venue percuter notre marché, mais je pense que dans les 5 prochaines années, ça va venir percuter. Je lisais un article dans Les Échos, à Wall Street, sur les principales banques internationales présentes, c'est 250 000 emplois qui devraient disparaître dans les 3 à 5 ans qui viennent par l'usage de l'intelligence artificielle. Donc on ne prend pas conscience de cette révolution qui est en train de se faire.
Je vous rassure pas, je vous confirme, on n'en a pas conscience du tout. Vous êtes le premier sur le plateau, me semble-t-il, à l'avoir dit de cette façon-là. Ça fait un peu flipper, là. Sur le...
bah, ça ne fait pas flipper. C'est... En fait, il faut s'adapter. C'est tout simplement s'adapter.
Je crois qu'est-ce qu'on fait ?
C'est la nature humaine, c'est darwinien. Il faut s'adapter.
C'est schumpeterien, quoi. C'est de la destruction créatrice.
Oui, on va dire ça comme ça aussi. Voilà,
mais c'est intéressant.
Depuis le début, on fait de la philo. Alors, mettre l'immobilier en support de la philosophie, je n'avais jamais fait celle-là, mais pourquoi pas. Non, mais quoi qu'il en soit, oui, les choses changent.
Donc, pour vous, l'IA, c'est... ok, donc pour vous, c'est pas un fantasme réellement.
Mais c'est déjà engagé.
Chez CBRE ?
Alors chez CBRE, on est un petit peu lent à la mise en œuvre. Je ne devrais pas dire ça parce que si on m'écoute, ça va râler. Mais quoi qu'il en soit, oui, on est déjà on travaille déjà nos propres outils. On les déploie pas assez vite. On ne va pas dans l'appropriation, elle est trop lente. Donc c'est une dynamique qu'on doit prendre. Et ça, mais je parle de CBRE, j'ai envie de parler pour tout le monde parce que c'est inéluctable pour chacun d'entre nous.
Alors je voudrais qu'on puisse conclure cette interview sur les tendances et l'observation des tendances. Alors on le voit bien, vous êtes d'accord, vous en avez convenu. Les phénomènes exogènes et géopolitiques ont un impact durable sur la confiance et sur l'activité économique. On est tous d'accord là-dessus. Vous avez parlé du coworking. Moi, je voudrais vous parler d'un sujet sur lequel on parle beaucoup depuis quelques années, dont on n'arrive pas réellement à trouver le bout. C'est la régénération urbaine à travers la transformation de logements, de bureaux en logements. Tout à l'heure, vous avez dit une phrase importante. Les bâtiments ne prendront plus jamais preneur, puisqu'ils ne sont plus adaptés, du style, ils sont carrément obsolètes, ou n'ont plus de valeur. Alors, qu'on peut leur redonner vie ?
Alors, dans ma grande prétention, il y a quelques années, j'ai été interviewé sur Europe 1 de mémoire, et on avait débattu de ce sujet-là. Et j'avais dit spontanément, voilà, pour moi, vous avez 5 à 10 millions de mètres carrés de bureaux qui, dans les 5 à 10 ans, n'existeront plus, ne seront plus des bureaux. Je vous laisse faire des calculs. Ce chiffre est resté d'ailleurs.
C'était un peu prophétique. Hein.
Bah, en fait, c'est répété. Je me dis, chacun se l'est approprié à sa manière. Moi, je pense que malheureusement, on va aller beaucoup plus loin quand je dis ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des villes, on peut parler de zones tertiaires, qui aujourd'hui n'ont plus de sens économique. On a eu la désindustrialisation sur laquelle Draghi est revenu dans son rapport. En revanche, on va rentrer dans une phase de détertiarisation. Donc ce sont des millions de mètres carrés de bureaux en France dont on n'aura pas l'usage, sur lesquels il va falloir se pencher. On le fait déjà d'ailleurs, parce que ponctuellement c'est fait, maintenant c'est pas fait d'une manière industrielle, mais c'est compliqué. En revanche, tous ces mètres carrés de bureaux ne sont pas transformables en l'état. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours contraint par le phénomène de décarbonation. Donc, pour obtenir vos permis de construire, vous devez remplir un certain nombre d'obligations. Mais je considère aujourd'hui que vous avez beaucoup d'immeubles de bureaux qui ne sont pas du tout adaptés à la transformation de bureaux en logements. Tout simplement pourquoi ? Quand vous avez des profondeurs de 18-22 mètres avec des immeubles qui ont été bâtis, construits à 20-25 ans de conception et d'âge, je ne vois pas très très bien comment on peut les transformer en logement. Vous allez perdre des mètres carrés, les cages d'escalier ne sont pas au bon endroit, il faut refaire tout ce qui est isolation, etc. Donc ça n'a pas de sens économique. Je vous donne un petit exemple, puisque vous avez parlé de la défense, je vais revenir sur la défense sans mentionner le sujet. Quelqu'un m'interpellait sur qu'est-ce que je fais de mon immeuble. C'était une tour, on a travaillé sur la tour quelques instants, on en a fait le tour, en tout cas de le dire sans mauvais jeu de mots. Et la conclusion, c'était de dire, je porte l'immeuble, je vide l'immeuble, je prends du crédit pour faire des travaux, je fais les travaux, 3 à 5 000 euros du mètre carré, hein, juste pour le savoir, une tour à rénover, c'est quand même très lourd. Après, je vais au marché, donc j'ai un delta temps, je vais donner des franchises de loyer pour faire rentrer. Si je remplis pas 100% mon immeuble et je fais du multilet, je vais avoir du vide structurel. À la fin, c'est une valeur négative.
Et oui,
si je prends un loyer et un taux, c'est une valeur négative. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors quand vous êtes propriétaire de l'actif, vous pouvez travailler pour trouver une solution. Et vous êtes contraint de trouver une solution. Mais quand vous n'êtes pas propriétaire et que vous cherchez le marché, vous n'allez pas acheter les immeubles à des prix qui sont des prix de charge foncière plus. Non, non. Et pour la première fois, il m'est arrivé un événement il y a 3 semaines, 1 mois, quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est venu me voir avec un actif de 30-35 000 mètres carrés de bureaux en région parisienne et qui m'a posé la question, pour un euro symbolique, je sors, je le vends, je l'ai regardé, je dis non, il faudra que tu donnes de l'argent pour le vendre. Donc ça peut aller jusque-là. La valeur de certains actifs est négative.
Incroyable. Et voilà. Je comprends complètement votre analyse et elle est pertinente dans votre métier, Fabrice. Mais à l'heure où on manque d'espace, où on manque de logement, vous entendez bien que ça sonne...
Vous revenez sur mon discours, c'est pour ça que la défense est un peu différent, mais vous revenez sur mon discours du temps nécessaire à. Donc ça veut dire que si vous prenez un objet aujourd'hui et que vous le transformez, il faut déjà que toutes les autorisations et tout soit aligné, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, on va se projeter. Maintenant, attends.
Donc c'est politique. Non, mais tout est politique.
Non, c'est pas politique. Ah, c'est aussi technique. C'est aussi technique. C'est économique. Bah, comment vous voulez emprunter de l'argent aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez des taux. Alors là, je crois que.
Politique. Si on demet, par exemple, s'il y avait une niche fiscale, s'il y avait un booster fiscal, s'il y avait un cadre juridique, comme par exemple le régime SIC qui a fait la fortune des acteurs du retail.
Là, je vais sauter dans la flaque d'eau. C'est qu'à de le dire avec le temps à Cannes. Quand on est privé, on est privé. On assume ses engagements. Il y a un moment, on peut pas compter toujours sur l'État. C'est pas possible.
Ça fera plaisir aux ministres qui vont passer aujourd'hui. Hein.
Oui, mais il faut assumer la situation. Et je vous dis, c'est
intéressant ce que vous dites.
Il va se passer beaucoup de choses. Ça va être profond et long. Et il y aura au bout un marché qui sera totalement différent sur plein d'aspects. Et c'est ce que je suis en train de regarder. La décarbonation est un sujet majeur.
Alors justement, rapidement, la décarbonation avec la plateforme Opéra, on s'en sort? C'est pas trop compliqué?
Bon, la plateforme Opéra, pour tout vous dire, je la suis pas vraiment, je sais comment elle fonctionne. Et aujourd'hui, on est en déclaration, okay. Et il n'y a pas beaucoup de pénalités, pour être clair. Donc, c'est plutôt un élément indiciel pour comprendre là où vous vous situez par rapport aux autres. Hein. Voilà comment ça fonctionne. Enfin, c'est ma vision, en tout cas. C'est comme DeepKey, etc. Tous ces outils sont des outils d'information plus que des outils d'action. Mais quoi qu'il en soit, oui, la décarbonation est un vrai sujet, parce qu'il va falloir investir sur tous ces actifs, ce qui va encore mettre une seconde gifle au marché des bureaux vides.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025?
Eh ben, d'être là en 2026, en 27, en 28, en 29, en 30, et puis qu'on continue ces interviews tous les deux. Moi, je serais ravi. Puis de toute façon, j'ai un nouvel emploi, parce que je crois que j'ai une offre d'emploi qui est arrivée tout
Absolument.
À l'heure.
Écoutez, les amis, c'est toujours un plaisir de recevoir. Mais bon, on a une longue habitude, puisqu'on se voit régulièrement depuis une dizaine d'années maintenant. Deux fois par an, avec Fabrice Allouche, président de CBRE France. Vous avez toutes les informations d'ailleurs sur le site internet, et je vais demander à notre ami Théo de mettre l'URL de CBRE, comme ça vous pourrez aller visiter en même temps que vous écoutez son président les activités de CBRE. Merci Fabrice Allouche.
Merci Sylvain. Alors pas l'année prochaine.
Voilà, on va se revoir quand même dans le courant du MIBIM avec beaucoup de plaisir.
Alors,
voilà,
je suivre. Je ferai peut-être la conclusion alors.
Nous allons recevoir aussi un grand monsieur de l'immobilier qui est à la tête d'un véhicule d'investissement. C'est une SCP. Le président de Sogénial sera avec nous à 10h avec Jean-Marie Souclier, où on fera aussi le tour du marché sur les actifs résidentiels, actifs de bureau, avec la vision finalement de l'investisseur. À suivre également les grands professionnels de l'immobilier. On recevra également, je vous le rappelle, pour le grand entretien 11h45, la ministre du Logement, Valérie Létard. On se retrouve à 10h.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.